Vecchia.
This is Radio Free Europe.
9 minutes in Colombia.
Radio Rosana di Paris.
Madonna Radio Globo.
From CNN Radio 7.
Radio Dacia.
O Brasil quer seguir.
Turquia, Fotora, Bolsonaro, Recife.
Le 18-20 de France Inter continue. Rebonsoir et bienvenue un jour dans le monde aujourd'hui au Cap-Vert avec Éric Valmire. Dans quelques minutes, nous passerons par le Japon pour une analyse de la situation économique et politique du pays. Mais tout de suite, États-Unis, Cuba, ce mercredi 17 décembre 2014, restera dans les livres d'histoire.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
L'embargo qui est imposé depuis des dizaines d'années a été codifié dans la législation. Ces changements vont se dérouler. Je demanderai au Congrès de se lancer dans un débat très sérieux sur la levée de l'embargo.
La levée de l'embargo, donc, c'était Barack Obama qui s'exprimait il y a quelques minutes. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes le correspondant de Radio France à Washington. Histoire H majuscule aujourd'hui.
Ah oui, histoire avec un grand H et discours avec un grand D de Barack Obama qui vient de se terminer, qui a duré un quart d'heure et sans doute depuis qu'il est à la Maison-Blanche, depuis janvier 2009, le président américain n'a pas eu l'impression de faire autant l'histoire qu'aujourd'hui. Effectivement, ce qu'il est venu annoncer pendant un quart d'heure aux Américains, c'est la normalisation, c'est la reprise des relations diplomatiques avec Cuba, c'est la fin d'une histoire de plus de 50 ans de rupture des liens entre ces deux pays qui, a dit Barack Obama, sont séparés par un bras de mer d'à peine 150 kilomètres. Donc voilà, il dit tout ou à peu près tout. Il dit reprise des relations diplomatiques. Il dit que John Kerry va immédiatement prendre langue avec les dirigeants cubains pour parler de ça, que dans quelques mois, il y aura une ambassade américaine à Cuba et une ambassade cubaine à Washington. Tout ça, c'est du ressort de Barack Obama, du ressort du président américain. La question de l'embargo, on l'a entendu dans le petit élément sonore que vous avez diffusé. Ça doit passer par le Congrès. Et c'est pour ça que Barack Obama dit « Je vais demander une discussion sérieuse au Congrès pour la levée progressive de l'embargo vis-à-vis de Cuba. »
Alors ça, on va y venir à la question du Congrès, Frédéric, mais d'abord, comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à ce mercredi 17 décembre 2014?
Écoutez, on en est arrivé à un coup de tonnerre aujourd'hui, longuement préparé par des négociations secrètes. Et d'une certaine manière, Barack Obama n'a pas caché son jeu. Vous vous en souvenez, il a dit à plusieurs reprises que l'embargo n'avait aucun sens, qu'il n'avait pas d'impact, qu'il n'avait plus d'impact réel, que les États-Unis étaient le seul à le maintenir et donc ça n'était pas efficace, qu'il fallait une autre politique. C'est ce qu'il pense et ce qu'il dit depuis des années. Et il y a eu, ces derniers mois, des négociations secrètes dans lesquelles un homme a été extrêmement important et Barack Obama l'a remercié dans son discours il y a quelques minutes, c'est le pape François.
Le pape
absolument, le Vatican, le pape, les deux hommes, Barack Obama et le pape François, s'en sont parlé quand le président américain était au Vatican en mars dernier, je crois, au printemps dernier. Le pape François a demandé à Barack Obama et au Cubain Raúl Castro de discuter, d'avancer ensemble. C'est ce qu'ils ont fait. Visiblement, il y a eu des négociations qui se sont passées au Canada notamment. Et autre pays qui a joué un rôle sans doute moins important que le pape François, mais pour le déblocage de dernière minute, c'est l'Uruguay. Le président Mujica, qui est un grand ami de Raúl Castro, qui est un homme aussi avec lequel les Américains ont discuté pour que l'Uruguay accepte des prisonniers de Guantanamo il y a quelques semaines. Cet homme-là aussi a fait le lien entre les deux pays. On en est arrivé aujourd'hui à la libération d'Alan Gross, un Américain détenu depuis 5 ans à Cuba. C'était la condition mise par les États-Unis pour avancer sur le chemin des relations diplomatiques entre Washington et La Havane.
Donc en tout cas, c'est une manœuvre multilatérale qui a conduit à ce jour historique, Frédéric. C'est ce que vous nous dites.
C'est une manœuvre multilatérale, on peut même dire mondiale. Il y a un autre acteur qui est impliqué, visiblement, c'est la Croix-Rouge, parce qu'après, ce qui va se passer, c'est que se passe-t-il en termes de droits de l'homme à Cuba ? C'est ça qu'on va demander évidemment aux États-Unis. Quel geste? Qu'est-ce que fait exactement Raúl Castro? Donc la Croix-Rouge visiblement est également impliquée dans ce processus et Cuba accepterait des observateurs internationaux, des gens de la Croix-Rouge, peut-être d'autres, pour regarder un peu plus ce qui se passe dans ce pays.
Merci Frédéric Carbone, correspondant de Radio France à Washington. Et bonsoir Zoé Valdés.
Bonsoir.
Vous êtes romancière, poétesse, scénariste cubaine, exilée en France. Nous parlons d'histoire aujourd'hui, histoire avec un grand H, comme disait Frédéric Carbone à l'instant. C'est un moment historique pour vous ?
C'est un moment historique, évidemment, mais c'est un moment historique sans mémoire, malheureusement. Et c'est très, très dommage parce que je pense à beaucoup de gens qui ont été tués et sacrifiés par la dictature castriste. C'est un énorme cadeau que Obama fait à Raúl Castro.
Donc vous dites que le comment dire le moment historique est entaché d'un fil tragique.
Ah oui, parce que ce qui s'est passé pendant 56 ans, c'est une dictature où il y a eu pas mal de victimes. Il y a eu, et en plus, il faut se demander si vraiment l'embargo antérieur de la dictature castriste va être fini au même temps que l'embargo américain. Est-ce que cet embargo-là va être levé?
Est-ce que la question du régime cubain en lui-même, de la nature même de ce régime, on a appris ce soir la libération de 53 prisonniers par les autorités cubaines, des prisonniers considérés comme des prisonniers politiques par les États-Unis. Est-ce que là, c'est un premier signe, d'après vous, d'une amélioration sur le plan des droits de l'homme?
Il y a eu Alain Gross, il y a eu un homme dont on ne connaît pas son nom, un espion américain. Il y a eu deux prisonniers politiques cubains, mais il reste dans les prisons de Cuba, il reste pas mal de prisonniers politiques cubains. Donc, faut voir s'ils vont être libérés d'ici aux prochaines semaines.
Ce sera ça le critère, d'après vous, Zoé Valdez?
Le critère, d'après moi, c'est que c'est une manœuvre, malheureusement, c'était pas le moment. C'est un énorme cadeau qu'on fait à la dictature castriste, parce que rien n'a changé à Cuba. Mais de toute façon, monsieur le président Obama l'a dit dans son discours, ils ont déjà des relations avec la Chine, donc ils vont avoir des relations avec Cuba de la même façon qu'ils ont des relations avec la Chine. Va être, comme dans les poèmes de Kavafi, ça va être « Enfin, les barbares sont arrivés ».
Donc à vous entendre, c'est une manœuvre politique qui donne encore plus de puissance au pouvoir cubain.
C'est une manœuvre politique qui va être un bénéfice du régime cubain, ça c'est sûr.
Merci Zoé Valdez pour cette première réaction donc à cette page d'histoire que nous vivons en direct. Une question supplémentaire pour vous, Frédéric Carbone. Les Américains, eux, sont dans quel état d'esprit? Est-ce qu'ils sont favorables au fait de tourner cette page de l'embargo, cette page d'un demi-siècle d'histoire tellement compliquée avec Cuba?
C'est très difficile à dire. Si vous prenez de manière générale, vous faites un sondage aux États-Unis, il y en a eu d'ailleurs disant « Est-ce que vous êtes pour qu'on tourne cette page-là ?» Vous aurez plus de la moitié des personnes interrogées qui répondront oui. Après, évidemment, il y a des communautés, il y a les Cubains américains, les 2 millions de personnes qui sont réfugiées aux États-Unis, qui sont à Miami, en Floride pour la plupart, et qui sont majoritairement opposés, eux. Mais même là-dedans, il y a des différences entre les générations. Bien évidemment, les générations qui sont arrivées depuis le plus longtemps de Cuba, qui ont fui Cuba depuis les années 70-80, sont beaucoup plus opposés sans doute que les jeunes à ça. On voit d'ailleurs que depuis quelques années, Barack Obama a autorisé le transit, les voyages vers Cuba pour tous les Cubains américains. Et beaucoup de jeunes Cubains américains sont allés déjà à Cuba. Et pour Barack Obama l'a dit, aujourd'hui c'est un peu son pari. Il pense que ces Américains-là sont les meilleurs promoteurs des valeurs américaines à Cuba. Il dit, l'embargo, on l'a vu, ça n'a pas marché. Notre objectif, c'est toujours la démocratisation de Cuba. Mais par cela, on n'y est pas arrivé. On y arrivera par d'autres voies. On y arrivera par la multiplication des échanges. On y arrivera si plus d'Américains vont à Cuba, si on a plus d'échanges avec Cuba. Et après, il y aura la traduction au Congrès. Il y a déjà des élus, démocrates comme républicains, qui ont dit tout le mal qu'ils pensaient de ce que faisait Barack Obama aujourd'hui, qui ont dit notamment que Raúl Castro ne faisait pas de gestes vraiment significatifs. Mais pour autant, ce n'est pas forcément la majorité du Congrès. On a vu notamment que quand il est revenu, Alain Gross, tout à l'heure, il y a quelques minutes, sur la base d'Andrews, revenu de Cuba, il était accompagné d'un sénateur républicain qui a beaucoup poussé pour sa libération.
Ouais, et puis on a entendu, Frédéric, la réaction de Zoé Valdez, qui consiste à dire que c'est un encouragement au régime dictatorial de Raúl Castro qui est apporté.
Mais c'est un sentiment réel aux États-Unis aussi. C'est un sentiment réel pour beaucoup de ces Cubains américains et pour beaucoup d'Américains, tout simplement, qui ne viennent pas de Cuba et qui considèrent que le régime castriste reste un régime autocratique, reste un régime communiste et qu'il n'y a pas à discuter avec lui. Quel chemin parcouru? Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, Cuba était dans l'axe du mal de George Bush. Donc voilà. Et après, il n'y a pas une distinction stricte entre républicains et démocrates. La ligne de fracture, elle passe entre ceux qui pensent que l'embargo, c'était encore la voie, que pour des raisons symboliques aussi, il ne faut pas rétablir de relations diplomatiques avec Cuba, que les Castro sont au, tant que les Castro sont au pouvoir, ils le sont là depuis 50 ans. Et puis ceux, et Barack Obama a pris la tête de cette coalition aujourd'hui, qui disent « c'est pas comme ça qu'on y arrivera, il faut changer de politique ».
Merci Frédéric et bonsoir Stéphane Witkowski.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous au micro de France Inter. Il est 18h27, vous êtes le président de l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine. Nous le disons depuis le début de cette émission, une page d'histoire est en train de s'écrire en direct. Une page d'histoire se tourne entre les États-Unis et Cuba. Quelle est votre première réaction, votre premier sentiment face à cet événement-là ?
C'est un événement symbolique important, mais en même temps qui est la conséquence d'un long travail qui a été fait depuis un certain nombre d'années, et plus particulièrement depuis un an. Souvenez-vous, lors des obsèques de Mandela, cette poignée de main symbolique
Obama,
entre Obama
Castro
et le président Raúl Castro. Et depuis cette année, beaucoup de choses se sont faites. Il y a eu, au mois de janvier, un événement diplomatique qui est passé un peu inaperçu fin janvier à La Havane, où il y a eu le sommet de la CELAC, la communauté économique des latino-américains à La Havane, réunissant 30 des 33 chefs d'État latino-américains sous la présidence cubaine. Ensuite, la prise de conscience de la part de l'Union européenne qui a engagé un certain nombre de négociations pour un accord cadre en négociation entre l'Union européenne et Cuba. La France aussi a pris conscience de cet enjeu et le président et Laurent Fabius s'est rendu à Cuba au mois d'avril.
Donc il y a une poussée là.
Il y a une prise de conscience et il y a eu un certain nombre d'événements aux États-Unis. Il y a eu des prises de position d'Hillary Clinton cette année dans ses mémoires qui racontent que la politique d'embargo de Cuba, vis-à-vis de Cuba a été un échec, qu'il y a eu 44 intellectuels et d'hommes d'affaires et d'hommes politiques nord-américains, en particulier l'ancien secrétaire d'État auprès de Bush, Negroponte, appelant à une révision de la politique américaine vis-à-vis de Cuba. Et la presse aussi, le New York Times, depuis quelques semaines, demande, réclame donc un changement de politique.
Devait être bien informé voilà. Déjà de
donc,
ce qui se passait en
coulisses. S'il le faisait, c'est qu'il y a évidemment il y avait des raisons. Mais derrière tout cela, depuis des années, il y a d'une part des lobbies économiques actifs aux États-Unis, notamment dans le secteur agroalimentaire et dans le domaine pharmaceutique, demandant effectivement une levée de cet embargo. Le président Carter s'était rendu lui-même à La Havane il y a quelques années et on se rend compte qu'un certain nombre d'affaires et d'investissements européens, latino-américains et asiatiques prennent des positions à Cuba. Et donc, pourquoi laisser ce marché à d'autres ? Et puis, fondamentalement, je crois qu'il y a une prise de conscience aux États-Unis que l'embargo qui a été régulièrement condamné par l'ONU d'année en année, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus objectivement de raison à maintenir cet embargo. S'il était toujours maintenu, c'était essentiellement pour des raisons de politique intérieure nord-américaine. Et comme vous le savez, tout président américain, quel qu'il soit, démocrate ou républicain, a besoin de tous les lobbies. Et l'un de ces lobbies, c'est ce lobby cubano-américain, 2 millions de cubano-américains
très
aux
puissant.
États-Unis, très puissant, surtout dans le domaine, surtout dans l'État de Floride. Et vous vous souvenez, les contestations de la première élection de Bush, avec ses comptes et ses décomptes lors de la première élection de George Bush, où ces lobbies-là sont particulièrement actifs, puissants. Et le président américain, quel qu'il soit, ce qui l'importait davantage, c'était de tous les lobbies et non pas tellement le devenir de Cuba. Et c'est la raison pour laquelle cet embargo a été maintenu avec Cuba, alors qu'il a été levé avec le Vietnam, avec des enjeux et en termes de morts autrement plus considérables entre les deux pays.
Alors, on va revenir au discours D majuscule, disait Frédéric Carbone tout à l'heure, de Barack Obama. Il s'exprimait il y a quelques minutes. Traduction simultanée d'Aurélien Colli.
J'ai demandé au secrétaire d'État John Kerry de rétablir les relations diplomatiques avec Cuba qui étaient interrompues depuis 1961. Nous allons rouvrir une ambassade à Cuba. Là où nous pouvons avancer ensemble, nous le ferons. Dans le domaine de la santé, de l'immigration, de l'antiterrorisme, du trafic de drogue ou des catastrophes naturelles. Deuxièmement, j'ai demandé au secrétaire d'État à Kerry de modifier la désignation de Cuba comme État soutenant le terrorisme. Il sera plus facile pour les Américains de voyager vers Cuba et d'utiliser leurs cartes bancaires dans ce pays. Je crois aussi que plus de ressources devraient être offertes au peuple cubain. Donc nous allons augmenter de manière significative les montants maximum qui peuvent être envoyés à Cuba et enlever les limites des fonds consacrés à des projets humanitaires. Je crois que l'économie américaine ne doit pas être désavantagée. Donc nous allons aussi faciliter les transactions financières entre Cuba et les États-Unis. Les banques seront autorisées à rouvrir des comptes à Cuba et il sera plus facile pour les Américains de vendre des biens dans ce pays. Nos sociétés seront autorisées à vendre du matériel qui va permettre aux Cubains de communiquer avec les États-Unis et d'autres pays. Et puis enfin, j'appelle le Congrès à s'engager dans une démarche honnête et sérieuse pour lever l'embargo qui a été imposé à Cuba pendant ces décennies.
Voilà pour la déclaration du président américain Barack Obama, traduite par Aurélien Colli. Stéphane Witkowski, vous n'êtes pas trompé. Hein, il y a bien toute une partie qui n'est pas sur le symbole, mais sur l'économie, les échanges, la façon de pouvoir commercer de manière plus ambitieuse avec Cuba. Hein.
Bien sûr. Mais tout ce qui arrive actuellement, c'est aussi la conséquence de la diplomatie cubaine qui travaille, d'abord qui est une diplomatie très connue, très réputée. Et parce que les premières déclarations de Raúl Castro quand il a pris ses fonctions, il avait dit « mes relations avec les États-Unis, en deux mots, tout est négociable sauf la souveraineté ». Et donc, à partir de là, il y avait un certain nombre de groupes de travail qui se réunissaient régulièrement sur les questions migratoires, d'une part, sur les questions environnementales, et en particulier, chaque fois qu'il y avait une catastrophe de marée noire, il y avait une coopération entre les deux pays, coopération de lutte contre la drogue, police en particulier, et les responsables américains ont dit en privé souvent que la coopération avec la police cubaine était probablement l'une des plus exemplaires au monde.
Alors, juste tout de même...
Et dans le domaine postal, enfin, ouais. Il y a d'autres exemples où ces groupes de travail se réunissaient régulièrement.
Tout de même, Zoé Valdés, exilée en France, intellectuelle, romancière, poète, scénariste, disait tout à l'heure que Barack Obama parle avec la Chine, dictature. Barack Obama, maintenant, rétablit des relations avec Raúl Castro et Cuba, dictature. Donc, c'est un geste de soutien clair, net et précis, explicite à une dictature qui retrouve là un peu de vigueur grâce aux États-Unis. Ce sentiment-là... comment vous l'analysez, comment vous le recevez et comment est-ce qu'à votre avis il va jouer dans le débat public américain?
Alors d'abord je dirais que la nature des régimes cubains et chinois sont de nature très très différente et que d'autre part c'est le principe de realpolitik. En l'occurrence je crois que l'administration américaine et Obama en particulier ont pris conscience que c'était contre leurs propres intérêts. Non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour faire passer un certain nombre de messages. Vous rappeliez tout à l'heure les influences du pape qui ont joué, mais aussi de tous les pays d'Amérique latine qui réclamaient depuis longtemps cette levée de l'embargo. Et donc, il y a eu effectivement une prise de conscience que le maintien de cet embargo n'avait plus aucune raison d'être de perdurer.
Mais politiquement, Cuba ne va pas devenir du jour au lendemain une riante démocratie.
Alors, le gouvernement actuel... est engagé dans un processus qu'on appelle une actualisation du modèle économique.
Oui, alors ça...
Et alors, modèle économique.
Ouais, c'est-à-dire, c'est important.
C'est très important, en particulier cette année, il y a eu cette nouvelle loi sur les investissements étrangers qui a été promulguée et que d'autre part, il y a une difficulté pour le gouvernement cubain de tenir en quelque sorte et d'essayer de concilier deux principes un peu contradictoires. D'une part, une volonté de la part de beaucoup de Cubains de changer un certain nombre de choses au point de vue concrètement, mais en même temps, et notamment les jeunes qui voient effectivement le nombre de Cubains, le nombre de touristes arrivant à Cuba aspirent à effectivement ces changements, et en même temps, toute une partie de la population qui est attachée à conserver ce qu'ils appellent les acquis sociaux de la Révolution, éducation, santé en particulier, qui sont importants pour un pays pauvre.
Mais sur la question des droits de l'homme, à votre avis, comment est-ce que les choses peuvent évoluer, Stéphane Witkowski?
Raúl Castro avait dit que tout est négociable sauf la souveraineté, et il avait même précisé intégrant les questions des droits de la personne humaine, et en particulier sur les échanges en particulier de ces prisonniers. Vous savez qu'il y a actuellement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu ces fameux 5 prisonniers dont on a beaucoup parlé, ces agents cubains qui avaient été arrêtés aux États-Unis pendant un certain nombre d'années, dans des conditions juridiquement très contestables. Et puis, aussi, il y a eu donc la libération d'Alan Gross, pour des raisons autres aussi. Et on évoquait le pape, l'influence de l'Église, qui en fait joue un rôle très important, non seulement depuis le pape François, mais depuis Jean-Paul II. Lorsque Jean-Paul II s'était rendu à La Havane, il avait dit « il faut que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba ». Et à ce moment-là, c'était institué une relation personnelle entre Fidel Castro et Jean-Paul II, qui a été maintenue jusqu'à la mort de Jean-Paul II. Ils ont même entretenu des relations personnelles tout à fait étonnantes jusqu'à la mort de Jean-Paul II. Et lorsque le pape est mort, Fidel Castro avait décrété 3 jours de deuil national à ce moment-là. Puis ensuite, son successeur, Benoît XVI, avait souhaité rencontrer Fidel Castro. Lorsqu'il s'était rendu au Mexique, il avait donc fait un saut à La Havane, mais il a souhaité rencontrer Fidel Castro parce que, comme vous le disiez aussi justement, la connaissance des réseaux d'intelligence économique du Vatican sont extrêmement intéressants. Et évidemment, le pape François étant latino-américain, coulait de source.
Merci en tout cas Stéphane Witkowski de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Merci à Frédéric Carbone, notre correspondant aux États-Unis à Washington, et à Zoé Valdez pour ce premier débat sur une page d'histoire, je le redis, qui est en train de s'écrire en direct. Il est 18h37, Georges Ezra, puis le Japon. Merci d'écouter Inter, un jour dans le monde.
The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? For no, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
Ezra sur France Inter, Blame It On Me, il est 18h40 et c'est un beau jour dans le monde.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde, sur France Inter.
Allez, direction le Japon maintenant. Le Japon, dont la situation économique est scrutée à la loupe par le monde entier, et notamment par l'Europe, par la zone euro, à laquelle certains promettent, et ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle, de vivre dans les années qui viennent un scénario à la japonaise. Alors, de quoi s'agit-il exactement? On va en parler ce soir avec Claude Meyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez mené, et vous menez, une double carrière d'universitaire et de banquier, deux casquettes qui vont être extrêmement utiles ce soir pour parler d'économie japonaise. Vous connaissez parfaitement le Japon. Alors avant d'entrer dans le détail économique, un mot de la situation politique du pays au lendemain des élections législatives anticipées du week-end dernier. Karine Poupé, notre correspondante à Tokyo. À quoi ressemble le paysage, Karine ?
Le paysage politique japonais, eh bien Nicolas, c'est très simple, on n'est pas loin du parti unique, celui du Premier ministre Shinzo Abe, le parti libéral-démocrate qui va de la droite quasi-extrême jusqu'au centre-droite. À lui tout seul, il détient 61% des sièges de députés et même 68% avec son allié centriste appelé Kometo. Le reste est éparpillé entre 4 ou 5 autres formations qui n'ont absolument pas voix au chapitre. Je vous parle du résultat après les élections législatives de dimanche, mais il faut savoir que si vous m'aviez posé la question il y a un mois, 6 mois, 1 an ou même 2, la réponse aurait été exactement la même. Autrement dit, ce scrutin était un scrutin pour rien, sinon pour conforter le Premier ministre dans l'idée qu'il est le seul et pense-t-il le meilleur. En fait, le but était de rééchelonner le calendrier pour obtenir 2 ans de plus.
C'était un référendum en fait, Karine.
En effet, Shinzo Abe a lui-même dit qu'il s'agit de dire oui ou non aux Abenomics, un cocktail de mesures politiques. La population a dit oui, avec une abstention de 48%, excusez du peu, et par défaut, puisque personne n'avait rien à proposer de crédible en face. Alors maintenant qu'il a gagné, il dit « la population a approuvé aussi ma politique nucléaire, ma politique diplomatique ou encore ma politique constitutionnelle ». C'est allé un peu vite en besogne sur certains sujets qui fâchent, comme le redémarrage de réacteurs atomiques, mais il est clair que l'homme ne va pas se priver de faire passer en force les lois qui lui tiennent à cœur, notamment dans le domaine de la défense. Bref, il est assurément plus fort que jamais et l'opposition carrément anéantie. Il a néanmoins intérêt à réussir sur le volet économique.
Voilà donc pour le paysage politique au Japon au lendemain de ces législatives. Un paysage signé Karine Poupée à Tokyo. Alors avant d'entrer dans le détail de ce qu'on appelle les Abenomics, Claude Meyer, j'aimerais d'abord qu'on fasse un peu d'histoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre les Abenomics sans ce qui les précède, à savoir un marasme économique qui au Japon dure depuis plus de 20 ans. Alors pourquoi le Japon est-il encalminé dans la crise économique?
Alors effectivement, la belle mécanique de l'économie japonaise, dont certains au début des années 70 prévoyaient qu'elle serait number one, s'est complètement déréglée à partir du début des années 90 à cause d'une spéculation dans les années 85-90 et donc début des années 90, krach boursier immobilier. La croissance se traîne et l'économie rentre en déflation à la fin des années
90-2000
et d'une certaine façon n'en bouge plus. Donc ça fait une quinzaine d'années avec ce cercle vicieux de donc chute de la consommation parce qu'on reporte évidemment ses achats espérant des prix plus bas. Les entreprises, même raisonnement, on reporte puisqu'il n'y a pas de demande et ce qui entraîne une baisse des salaires, ce qui entraîne une baisse de la consommation, etc. Donc cercle vicieux.
Donc ça veut dire que c'est un pays qui est quoi ? À l'arrêt ou qui est en train de régresser ?
Non, ce n'est pas un pays qui est à l'arrêt et il ne régresse pas parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le Japon est la troisième puissance industrielle
quand
au monde.
Quand même, oui.
Qu'il est la première ou deuxième puissance technologique suivant les différents critères, qu'il a une compétitivité commerciale qui s'essouffle maintenant, on va en reparler, et que c'est encore le premier créancier du monde. Mais qu'il a des faiblesses structurelles que sont le défi démographique, une dette publique très élevée et la taille moyenne du marché japonais. Et donc arrive en décembre 2002, Monsieur Abe, donc du parti dit conservateur, PLD, adepte sans doute des arts martiaux, qui, en bon archer, va dans son carquois amener 3 flèches. Une flèche budgétaire pour relancer la croissance à court terme, donc ce sont des plans de relance. une...
Des plans de relance massifs. Hein.
Massifs, 90 milliards d'euros à peu près. La flèche monétaire pour mettre fin à la déflation, c'est-à-dire on inonde de liquidités avec une croissance de la masse monétaire qui est absolument colossale, qui a eu d'ailleurs des effets positifs, il faut le dire tout de suite, puisque maintenant on est dans une inflation positive, avec un autre effet qui est celui d'une baisse très conséquente du yen, 30%.
Et la troisième flèche?
Et la fameuse troisième flèche, qui n'est qu'à demi sortie de son carquois, sont les réformes structurelles, hein, c'est-à-dire accroître le potentiel de croissance à moyen terme, la croissance potentielle, comme on dit. Donc ça, c'est le plus difficile, parce que c'est le plus... dans un pays comme le Japon, avec des rigidités majeures, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient managériales, c'est extrêmement difficile.
Alors Claude Meyer, là, vous venez de décrire en trois flèches les Abenomics.
Absolument.
Alors, est-ce que ces Abenomics... que tout le monde regarde, hein, pour voir si ça marche. Puisque, si j'ai bien compris, ça a été un geste d'hétérodoxie dans l'orthodoxie économique. Donc on a dit, ah, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de manière tout à fait nouvelle, inédite, regardons si ça marche. Est-ce que ça a marché?
Alors, ça a marché pour... alors, il faut que ça se confirme, pour mettre fin à la déflation. C'est pas négligeable.
C'est-à-dire la baisse des prix?
La baisse des prix, en revanche, je dirais, les salaires, le problème, c'est que les entreprises n'ont pas augmenté les salaires. Donc, avec une inflation, évidemment, les revenus réels baissent. Donc, entraîne une baisse de la consommation. C'est greffé là-dessus. Une hausse, je dirais, peut-être mal calibrée, une hausse de la TVA de 5 à 8 % nécessaire pour réduire le déficit budgétaire et donc la dette, qui fait que donc on est actuellement deuxième trimestre de récession. De plus, le solde commercial, qui était quand même une des grandes forces du Japon, les grandes forces du Japon, c'était l'investissement et c'était l'exportation, ou plus exactement les exportations nettes, le solde commercial. Et actuellement, malgré la baisse du yen, pardon, les exportateurs japonais maintiennent leur prix en dollars, ce qui fait que ça n'augmente pas leur part du marché de manière à accumuler leur profit.
Donc, Claude Meyer, les Abenomics ont relativement marché, puis une augmentation de la TVA est quand même venue casser cette dynamique. Et aujourd'hui, le pays est dans quel état? C'est-à-dire, son économie est à nouveau en crise profonde?
Alors, on a oublié quand même notre troisième flèche, qui est à demi. Ce sont
les réformes.
Et les réformes structurelles, le marché du travail, notamment parce qu'il y a un problème démographique au Japon et il y a deux leviers possibles. Celui du travail des femmes. Alors là, il y a un certain nombre de réformes en cours, notamment au niveau des crèches, etc. Mais également le problème de l'immigration qui se heurte à des problèmes culturels considérables. Alors, le Japon, mais quelle leçon pour l'Europe aussi?
Ben voilà, c'est ça, moi, la question que je voulais vous poser.
Voilà.
Vous l'avez posée tout seul, mais je vous la repose.
Eh bien,
on nous dit, vous allez connaître le scénario à la japonaise en Europe. Ça veut dire quoi pour nous ici?
Bien, écoutez, la conclusion limpide, pour moi en tout cas, c'est que même avec une politique monétaire agressive, même avec un très grand sérieux budgétaire, s'il n'y a pas de réforme structurelle, ce sont des mesures de court terme pour un maintien de la croissance à court terme. Donc le pays, se trouve dans une situation économique. À mon avis, le quatrième trimestre va être meilleur. Et il ne faut pas préjuger, comme beaucoup le font, de la fin des Abenomics ou de leur échec. Par ailleurs,
mais il faudrait faire des Abenomics, d'après vous, en Europe?
C'est difficilement
transposable.
Hein, c'est transposable parce que, par exemple, une des réformes, c'est le travail féminin, etc., la question ne se pose pas du tout de la même façon. L'immigration, ça ne se pose pas du tout de la même façon. Donc, c'est difficile. Mais en revanche, sur les trois flèches, on peut dire effectivement que s'il n'y a pas de réforme structurelle, ça marche un petit peu, mais ce n'est pas ça qui permet de sortir le pays de l'ornière. Alors, je veux dire, ce qui est aussi intéressant, et là on revient aux problèmes politiques qui ont été évoqués, Abe a été extrêmement habile parce qu'il a fait passer cela pour une espèce de plébiscite pour sa politique économique. En fait, il veut donc une confirmation de son pouvoir pour mener dans les années qui viennent des réformes extrêmement contestées, dans le domaine, bien sûr, redémarrage du nucléaire, mais également la révision de la Constitution pour permettre notamment des interventions hors, en dehors du Japon pour les, comment dirais-je, l'action collective, la loi sur les secrets d'État qui pose des problèmes, notamment aux journalistes.
Et l'opposition, Claude Meyer, a été laminée, disait Karine Pouper. Enfin, il n'y a personne en face, quoi.
Ah ben, elle était miettée. D'abord, elle a été prise de court, mais même s'ils avaient eu 3 mois ou 6 mois, je veux dire, le Parti démocrate du Japon, en fait, qui déjà était un conglomérat qui allait du centre très à gauche, du centre gauche au centre très droit, mais pour des raisons de personne, s'était détaché du Parti libéral-démocrate, n'a pas prouvé pendant ces 2 années et demie au pouvoir une très grande efficacité dans aucune espèce de domaine.
Bilan d'étape d'après vous alors de cette politique économique, comme je le disais, comme vous le disiez aussi, qu'on regarde ici de très très près pour savoir s'il faut s'en inspirer ou non.
Eh bien, je vais vous dire, donnons-nous rendez-vous peut-être dans 3 mois, 6 mois, quand les résultats.
Dans 3-6 mois, ça va, c'est non, à du court premier, terme quand même.
Oui, du premier trimestre de 2015.
Mais sinon, il aura usé de toutes ses flèches le Japon sera peut-être pour de nombreuses années encore dans la crise économique.
Absolument.
Parce qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui aux abénomiques, c'est ça ce que vous dites?
Non, mais comme il n'y a pas tellement d'alternatives non plus dans nos économies, à part ce qu'on essaie de faire, à savoir... les relances budgétaires parfois, dans certains pays. Je pense que l'orateur qui va me succéder en parlera mieux que moi, pour ce qui est de l'Europe.
C'est Arnaud Leparmentier.
La leçon, pour moi en tout cas, c'est que les réformes structurelles, effectivement, sont essentielles. Et au Japon, ça va être extrêmement difficile. Par exemple, une des réformes comme celui du... Enfin, ce n'est pas des réformes, c'est l'adhésion au partenariat transpacifique des 12 pays riverains du Pacifique, qui est quelque chose d'essentiel pour le Japon. Les lobbies de l'agriculture, des avocats, de la santé, etc. sont vent debout.
Bah écoutez, on se reparle dans 3-6 mois.
Absolument.
Pour voir dans quel état est le malade et si le scénario à la japonaise est arrivé chez nous. Merci Claude Meyer. Vous êtes docteur en économie, diplômé en philosophie, en sociologie et en japonais. Vous avez été directeur général adjoint de Bank of Tokyo Mitsubishi à Paris. Voilà un long CV. Je vous remercie d'avoir été au micro de France Inter. Merci. Il est 18h53.
Merci à vous.
Un jour dans le monde.
Alors, la Chine, c'est fini. Ah bon, voyez la chronique très socialiste. C'est incompréhensible. Vous voilà informé par le monde, Nicolas.
Sur France Inter.
L'édito d'Arnaud Leparmentier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et Cuba, on en parlait tout à l'heure, ne relève pas de l'actualité, mais de l'histoire.
Enfin, va-t-on dire, Nicolas, après plus d'un demi-siècle de brouille, les États-Unis vont rétablir des relations diplomatiques complètes avec Cuba, ouvrir une ambassade à La Havane. La négociation a été menée en secret depuis 18 mois, essentiellement au Canada, sous l'égide du pape François, ce bon jésuite latino-américain. Une réunion finale s'est tenue au Vatican. Enfin, le président Barack Obama et Raúl Castro, le frère de Fidel, se sont entretenus au téléphone pendant plus de 45 minutes et ils viennent de faire des déclarations conjointes. L'île des Caraïbes va être retirée de la liste noire des pays soutenant le terrorisme. Les aides aux familles, les visites aux proches vont être autorisées, mais pas le tourisme ordinaire des citoyens américains à Cuba. Alors en amuse-bouche, on a procédé à un échange de prisonniers. Washington a libéré 3 espions cubains, emprisonnés depuis, tenez-vous, 1981. Cuba, lui, a libéré des dizaines de prisonniers politiques, ainsi que l'Américain Alan Gross, officiellement pour des raisons humanitaires. Cet homme de 65 ans avait perdu 50 kg, la vision d'un œil. Il avait été arrêté en 2009 pour espionnage, vendant des téléphones satellitaires et condamné à 15 ans de prison pour tentative de destruction de la révolution. Enfin, va-t-on dire, car Barack Obama voit l'occasion d'engranger un succès diplomatique, lui qui a multiplié les revers diplomatiques au Proche-Orient. Raúl Castro, lui qui a ouvert son économie progressivement, devait sortir de son isolement. Son parrain, le Venezuela de Maduro, n'a plus les moyens de le soutenir, surtout avec la chute des revenus pétroliers. Pourquoi alors, Nicolas, cela a-t-il duré si longtemps? Accusons les Américains sans hésiter. Leur problème, c'est qu'ils sont rancuniers. George Bush fils a fait chuter Saddam Hussein pour corriger l'erreur de son père, qui n'avait pas poussé jusqu'à Bagdad après l'invasion du Koweït en 1990. Ils firent de même avec Cuba en s'entêtant. Ils furent humiliés à deux reprises par Fidel Castro lorsqu'il mit en déroute l'expédition de la baie des Cochons en 1961 et les menaça en servant de base pour missiles soviétiques en 1962. Tout cela faillit tourner à la guerre nucléaire et Cuba est resté depuis sous embargo absolu. L'entêtement américain a eu deux défauts majeurs, faire naître une mythologie castriste et permettre au régime de se maintenir depuis plus de 50 ans. Que n'a-t-on entendu sur l'île de Fidel Castro où l'on vivait dans les dénuements mais pas dans la misère capitaliste, où l'on a vécu au rythme du romantisme révolutionnaire avec l'aventurier Che Guevara, fusillé par l'armée bolivienne en octobre 1967 ? Votre mythologie, vos t-shirts d'adolescent, Nicolas, alors que vous n'étiez même pas né.
Mais laissez-moi en dehors de ça, mais non, s'il vous plaît.
Le Che était en réalité impitoyable. Il avait lui-même mené l'épuration à Cuba avec 146 fusillés rien qu'en 1960. Au fond, les relations entre les États-Unis, les dictatures du Sud et l'Amérique latine sont bien difficiles. Nous pouvons donc avoir un début de compréhension sur la période qui va jusqu'à la chute du mur de Berlin. Mais pas après. En 1989, les dictatures communistes tombent en Europe. À Cuba, c'est le masque de Castro qui tombe. Le leader Maximo prend ouvertement parti contre l'évolution des pays socialistes vers l'économie de marché, contre la démocratie représentative. Il organise un merveilleux procès stalinien contre son rival, le général Ochoa, héros de la guerre d'Angola. Le général accusé, sans doute pas à tort, de lien avec le cartel de Medellín, se confesse en public et est bien vite fusillé. En juillet 89, juste après Tiananmen, juste avant la chute du mur de Berlin. Alors le régime castriste résiste, comme celui du Vietnam ou de la Corée du Nord, rien n'y fait, pas même la visite de Jean-Paul II en 1998, en dépit de la fin des aides de l'URSS, qui furent remplacées par celles de l'ami de Jean-Luc Mélenchon, Hugo Chavez. Tout cela est bientôt fini, et c'est tant mieux, la misère n'est pas plus belle au soleil, le développement ne saurait attendre à Cuba.
Merci Arnaud Leparmentier, et bon anniversaire au journal dont vous êtes le directeur adjoint de la rédaction. 70 balais, vous ne les faites pas, hein ?
Non, mais on continue de parler de l'URSS en une du monde, c'était la première une, la traité d'amitié de l'URSS, et là Poutine qui perd la guerre froide, la guerre économique, on s'en réjouit.
La boucle est bouclée.